va parler littérature à présent avec un très beau livre de Ariane Bois. Ariane Bois qui nous a rejoint dans le studio, bonsoir.
Bonsoir Bernard.
C'est votre 9e livre.
Exactement.
Éteindre le soleil, très beau titre déjà, paru aux éditions Plomb. Et vous racontez une histoire très particulière et qui va peut-être concerner beaucoup de gens parce que, étonnamment, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. C'est celui de l'emprise. Et vous avez décidé de prendre un peu la chose à contre-pied. Peut-être que je vais faire comme tous les mauvais intervieweurs. Je veux dire, peut-être que vous êtes un peu concerné parce que vous l'avez vécu. Bon, vous savez,
c'est comme on vous dit. Mais oui, c'est un récit.
C'est un récit.
C'est un récit, donc c'est assez, assez autobiographique, bien entendu, oui. Ce n'est pas un roman.
L'emprise, c'est une idée qui est assez nouvelle, qui est aujourd'hui acceptée de tout le monde. Par exemple, pour que les auditeurs comprennent, des fois on dit « mais pourquoi la femme est retournée ? Elle l'accuse maintenant de harcèlement, mais elle est allée... De... » Alors, aujourd'hui, devant la justice, on peut utiliser ce terme d'emprise, il est reconnu. Mais à la fois, en lisant votre livre, je me suis dit « emprise », c'est à la fois le mot le plus neuf, le plus moderne, le plus intelligent, le plus... et à la fois le plus fourre-tout. C'est tellement facile aujourd'hui de dire l'emprise. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc vous déjà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, si vous voulez, je vais illustrer un peu mes questions.
Oui, c'est, en fait, l'emprise, c'est difficile parfois à distinguer de l'amour, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vraiment un besoin de posséder l'autre, de le manipuler, de le priver finalement de ce qui fait sa vie, d'être la seule dans son existence, de le voler à lui-même et aux autres. L'emprise, c'est vraiment de la prédation. C'est un mécanisme psychologique qui s'appuie toujours sur une vulnérabilité, sur une fragilité. Et moi, j'ai voulu parler d'emprise au féminin, ce dont on parle très peu, vous avez raison Bernard, parce qu'on considère souvent que ce sont les femmes qui en sont les victimes.
L'emprise, par exemple, excusez-moi, c'est par exemple, on dit Tariq Ramadan. Voilà, ça c'est vraiment le cas typique. Les filles, alors lui, pour se défendre, il dit « mais regardez les textos, elle revenait, etc. » Et maintenant, les filles disent « ah mais non, mais on était sous emprise. »
Bien sûr,
elles étaient
en pleine soumission, elles étaient en pleine dépendance. Et donc, il maniait la gifle et la caresse, voilà, comme d'autres hommes l'ont fait, évidemment. Et donc, c'est un phénomène qui existe depuis que le monde est monde. Mais aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que les victimes osent en parler et qu'en plus, il existe un arsenal juridique, des associations, des moyens de lutter contre cette emprise.
Alors, pourquoi je vous disais, je vais illustrer ma question, c'est qu'en lisant votre livre, on se dit, et si j'avais vécu le même récit, la même histoire, je me dirais peut-être aussi, elle s'appelle Edith, la personne, je me dirais aussi peut-être, mais on ne me dit pas tout. Alors, par exemple, elle se met en colère, dans une colère noire, on va donner des exemples. À un moment, on se dit, mais elle est folle, effectivement, bon, elle pète les plombs. Mais, je sais pas, déchiqueter les photos d'un mort, par exemple, je vois pas qui c'est qui va vous dire, non, c'est très équilibré. Mais étonnamment, Ariane, à un moment, elle se fâche et elle lève la main. Je me dis, des fois, peut-être dans des colères de famille, comme ça, si c'était une histoire que j'avais dans ma vie, je dirais, mais peut-être on me dit pas tout.
Oui, mais l'emprise, c'est encore différent de la violence. Il y a de la violence physique, il y a de la violence morale, il y a de la manipulation, mais il y a surtout une volonté d'isoler l'autre. Et moi, je raconte l'histoire de mon père, qui était un homme extraordinaire, je pense qu'on y reviendra, qui finalement a été pris dans une relation toxique. J'ai commencé le récit au moment du premier confinement, à un moment donné où on était tous enfermés, plus ou moins, et donc j'ai repensé à cet autre enfermement qui est donc une relation toxique avec quelqu'un. Vous savez, c'est très pernicieux. On ne s'en aperçoit pas au début. Il y a un espèce de travail de sape. C'est les petites phrases, c'est les critiques. Et puis, progressivement, ça va crescendo et la personne est isolée. Alors, il y a une image que les psys utilisent très volontiers qui est celle d'animaux dans la savane. Il s'agit d'isoler, il s'agit d'éloigner, il s'agit de désorienter la proie pour finalement la dévorer tout cru. Et c'est cette espèce de crescendo que je raconte et qui est glaçant parce que c'est comme des nœuds qui se sont formés dans un filet. À un moment donné, on tire et tout le monde est prisonnier. Et finalement, cette emprise, elle a concerné mon père, mais elle nous a concerné à nous tous, toute la famille.
À un moment, il vous dit « on s'enfuit ». Oui. Mais il parlait d'autre chose.
Oui, il était à l'hôpital, il était déjà malade. Et il voulait se faire la belle. Et voilà, moi je reste avec mes questions, avec mes remords, avec peut-être aussi mes regrets. On est dans une face à quelqu'un qui effectue une emprise. On est souvent dans la sidération, dans le déni. Je sentais que les liens qui se formaient avec cette femme n'étaient pas tout à fait normaux ou classiques. Mais moi, ma priorité, c'était de voir mon père. Et donc, tant qu'il était en bonne santé, c'était possible. Et puis, le piège s'est refermé quand il est tombé malade.
Mais d'ailleurs, vous tenez des relations, finalement, avec cette personne jusqu'à la dernière minute. Même un jour, vous dites, j'ai réalisé après que finalement, j'étais contente qu'il soit là au moment de ces dernières minutes.
Bien sûr, elle a partagé sa vie pendant quelques années. Et elle, au début, mon père devait s'appuyer sur elle et c'était une relation qui se nouait. Mais la relation a très vite été dominante, exigeant soumission, exigeant obéissance et finalement nous enfermant tous dans quelque chose qui était vraiment extrêmement malsain. Donc moi, j'ai écrit ce livre non pas pour... Voilà, c'est pas un livre de vengeance, c'est pas un livre de règlement de compte, mais c'est pour expliquer que ça existe, que les femmes manipulatrices, eh ben, elles existent, qu'elles ne sont pas toutes victimes, que certaines ont un mauvais rôle dans la famille et qu'elles peuvent faire exploser cette famille. Et que donc, il faut faire très attention quand on est face à des personnages comme ça, parce qu'ils réussissent à tisser un filet dans lequel on est tous enfermés. Et puis, je voulais parler de mon père, j'ai beaucoup parlé dans mes livres de mon frère, de ma mère. Mon père était un personnage qui était resté un petit peu en retrait. Il vient d'une famille de justes et il a eu un destin lui aussi étonnant. Et donc, je le relate dans ces pages.
Personnage digne de Yves Montand, vous le dites à plusieurs reprises, il virevolte, l'impression d'être dans un film de Claude Sauté. On va venir sur effectivement son histoire tout de suite. Il est protestant.
Et alors, très protestant, oui.
D'ailleurs, à un moment, il va à la bar mitzvah de son petit-fils. Et il dit, j'aurais préféré quand même que ce soit un peu plus calviniste, tout
bien
ça,
sûr,
un peu moins ostensible.
Bien sûr, oui, il était d'une famille de pasteurs, très engagé dans la foi protestante, et surtout un médecin, qui travaillait pour Médecins du Monde et qui sillonnait le monde pour soigner les plus démunis, ce qu'on oublie, donc en Haïti, en Guyane, au Brésil, absolument partout. Et il nous rapportait à nous, les enfants, énormément de cadeaux, je me rappelle d'Arc. Une fois, il est revenu avec un perroquet géant, vivant, évidemment. Et voilà, comment ne pas être fasciné quand on est une petite fille.
Des trucs d'Indiens qui viennent d'ailleurs.
Exactement, hein, que j'ai conservé, évidemment, chez moi.
Je voudrais qu'on dise quand même sur le Chambon sur l'Aignan, parce que c'est un lieu qui est très important, même pour notre mémoire collective.
Très important pour lui, très important pour moi, j'y ai consacré un livre, sans oublier.
Lui, il est du Chambon-sur-Lignon.
Alors lui, il a fait toutes ses études au Chambon-sur-Lignon.
C'est un petit village, pour qu'on comprenne bien, c'est un petit bourg peut-être, je ne sais pas comment on va dire.
Un village, vraiment.
Village, ouais, vraiment, oui. C'est comme Isieux. Et où, en fait, c'est tout le village qui est juste parmi les nations. C'est le seul village à sauver les Juifs.
C'est le seul village de France qui a bénéficié du titre de juste parmi les nations donné par Yad Vashem. Voilà, il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Et c'est le Chambon-sur-Lignon qui, effectivement, a eu une action de résistance et où les gens, sans se poser de questions, ont caché les enfants. Il faut dire que c'était un lieu où les enfants venaient dans des colonies avant la guerre, se mettre au vert, dans des homes d'enfants. Donc il y avait les structures déjà, les écoles, et les enfants ont été envoyés de Lyon, de Saint-Étienne, et puis ça s'est su. Et il y a eu à peu près 2500 personnes dans le village et ses environs, et il y a eu plus de 2000 enfants juifs qui ont été sauvés. Donc mon père y a fait toute sa scolarité parce qu'il y avait un établissement extraordinaire qui s'appelle le Collège Chévenol, qui était quelque chose qui était à l'avant-garde de la pédagogie, qui accueillait des enfants de toutes les nationalités, de tous les pays, et qui malheureusement a dû fermer ses portes après un crime épouvantable survenu il y a 10 ans, mais qui a été vraiment le berceau de ma famille parce que toutes les générations sont allées au Chambon-sur-Lignon et on n'est pas très loin du désert, qui est l'endroit où les protestants ont fait leur culte quand ils étaient persécutés. Donc c'était un lieu de vacances, un lieu où on se rendait en été. C'est le lieu du bonheur et de la solidarité.
C'est sûr que de toute façon c'est très protestant. Hein.
Oui.
Alors, Serge Klarsfeld dit non, les curés ont sauvé les juifs pendant la guerre.
Bien sûr.
Très clairement, dit, l'État les a dénoncés, les curés. Mais je
et
crois
les,
que c'est quand même.
Et les pasteurs. Aussi,
oui, je crois qu'il y a un côté très protestant pour une histoire commune. Pour, il y a un côté naturel en fait pour Chambon-sur-Lignon. C'est pas, on a l'impression, nous on est loin, mais on se pose pas de questions.
Et c'est le peuple, c'est le peuple du livre, et donc les protestants lisent, et donc c'est un peuple qui est persécuté, et donc effectivement on se pose pas de questions et on aide de manière extrêmement simple et spontanée. Et Patrick Cabanel, le grand historien, a beaucoup travaillé sur ce qui s'est passé au Chambon. Moi j'en ai fait un roman, donc sans oublier, mais je voulais rendre hommage à ce village et à la jeunesse de mon père qui se passa dans ses prés et dans ses champs.
On lit les psaumes, hein?
Oui, ah oui, on lit. Hein? Moi, chez ma grand-mère protestante, on lisait.
Gaït Salmavet, si je vais dans la vallée de l'ombre, je n'aurai pas peur car tu es avec moi.
Voilà, exactement. Chez nous, on lisait, dans la partie protestante de ma famille, on lisait effectivement les psaumes. Et donc, cette foi protestante va le tenir parce qu'il va connaître des tragédies et la mort de mon frère, donc de son fils, et la mort de sa mère, que j'ai aussi raconté dans des livres, dans des romans. Donc cet homme.
Il a épousé une femme juive.
Il a épousé une femme juive et il avait été partout dans le monde et en Israël, qu'il aimait particulièrement. Donc un homme qui était vraiment d'une générosité incroyable. Je raconte dans le livre qu'il invitait des SDF le dimanche à déjeuner. Et donc, pour nous, les enfants, ça nous paraissait tout à fait normal de partager le poulet rôti et la purée avec des gens qui venaient de la rue. Et puis, on leur donnait un petit quelque chose quand ils partaient. Ça changeait tous les dimanches. Et voilà, c'était l'exemplarité. Ne pas dire ce qu'il faut faire, mais le montrer à ses enfants.
Comment est-ce que quelqu'un d'aussi structuré, d'abord, il y a même de la spiritualité, puis c'est un médecin, c'est un homme charmant, un homme qui ressemble un peu à Montand. Mm-hmm. Comment on peut se laisser avoir comme ça par une Edith qui vient
et... C'est la grande question, c'est la grande question et je n'ai pas toutes les réponses. Ça reste vraiment du domaine du mystère. Je crois qu'ils se sont retrouvés sur des bases du protestantisme, justement, puisqu'elle était aussi protestante, sur quelque chose de l'enfance, puisqu'ils étaient tous les deux de la même ville, et puis sur une fragilité. Vous savez, c'est des espèces de... Les psys diraient qu'il y a une faille narcissique chez l'un qui répond à quelque chose chez l'autre. Elle a vu dans cet homme quelque chose sur lequel elle pouvait peut-être agir. Et voilà, ça reste vraiment du mystère. Ce qui est certain, c'est qu'il existe un profil de femmes qui utilisent l'emprise. Elles sont sans empathie, elles sont manipulatrices.
Elle n'a pas d'empathie.
Non, pas du tout.
À un moment, elle vous dit, dis-moi, qui c'est qui lui change des couches? Qui c'est qui s'occupe de lui? Ça m'a fait penser, alors vous allez dire, mais il est très people celui-là, quelle interview. Quelle interview. Mais je suis sûr, moi, que Laetitia Hallyday, elle dit la même chose.
Bien sûr.
Vous êtes gentille, mais qui c'est qui était là la nuit.
C'est une histoire d'emprise, c'est certain. Et les profils d'hommes sont aussi les mêmes. C'est des hommes altruistes, c'est des hommes généreux. C'est toujours les mêmes personnages que l'on retrouve. Et c'est, alors je ne sais pas pour la personne que vous évoquiez.
Et qui s'appelle People. Johnny Hallyday.
Voilà, mais c'est...
On peut dire le nom, il est très connu.
Voilà, exactement. Mais c'est une volonté de démolir l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il a. Donc c'est très particulier et il faut s'en apercevoir. Et en fait, l'emprise, c'est un système qui est totalitaire, qui est répétitif, qui est mortifère. C'est un véritable sac de nœuds dans lequel on tombe.
Et puis voilà, votre père meurt de sa maladie, disparaît. Les deux dernières phrases du livre sont celles-ci. « Ma belle-mère devient minuscule dans le rétroviseur, puis disparaît insignifiante. La route s'invite devant nous, libre, tout est oublié sauf l'amour. » C'est magnifique. Mais c'est vrai, elle est devenue insignifiante ou pas ?
Elle a disparu du jour au lendemain. Et, elle est devenue insignifiante. Elle n'a pas volé le livre. Elle est rentrée dans cette histoire. Elle fait partie de l'histoire, mais elle n'a pas volé le livre. Et ce qui reste finalement, c'est ma relation avec mon père. C'est ce qui nous liait. Et,
Vous étiez sa star. Hein.
Ce qui a failli... En tout cas, j'étais sa raison de vivre.
Il avait les yeux qui... Voilà, oui, vous étiez sa star. Il avait les yeux qui brillaient uniquement mais comme, en vous regardant.
Mais comme toute fille est pour son père, je crois que c'est une vocation universelle. Les hommes, les pères sont les premiers hommes que l'on aime. Et la manière dont ils nous aiment, le regard qu'ils portent sur nous, finalement, ça va conditionner toute notre vie amoureuse, toute la manière dont on voit les autres hommes. Donc, c'est ce premier regard qui nous fait exister et qui nous fait comprendre que l'autre sexe peut nous apporter complétude et sérénité. Donc, le regard d'un père, c'est absolument capital. Tous les psys vous le diront. Moi, j'ai voulu rendre hommage au mien, qui en plus est un personnage de roman.
Oui, très beau personnage. Je voudrais recommander ce beau livre à nos auditeurs. D'abord, déjà, c'est très difficile, me semble-t-il, de faire un livre sur des sentiments qui aient du rythme, comme celui-ci. Ça, on n'est pas...
Il faut aller vite parce qu'il faut garder effectivement une notion de rythme. Je ne voulais pas m'apesantir. Je voulais que ce soit comme des petits instantanés. Moi, j'ai une écriture qui est un peu visuelle. J'aime montrer les choses. Et puis, il y a du mouvement, il y a de la vie. Même jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de mon père, il y a toujours de la vie. Il y a cet espoir entre nous. Et puis, il y a cette relation qui est plus forte que nous, parce que finalement il n'y a rien de plus fort que l'amour.
Avec de très belles phrases, dormir avec ses enfants, c'est tout savoir de la quiétude du monde. J'en bafouille. Il y en a deux trois comme ça que j'ai noté à travers.
Les enfants sont très importants d'abord parce que c'est une respiration dans un texte qui peut être engageant et dur. Et les enfants sont ce qui nous voilà. Il adorait ses petits enfants. J'ai la chance d'en avoir cinq d'enfants et donc de lui avoir offert ce bonheur-là. Et je crois que l'on se reconstruit à travers les épreuves parce que ce livre est aussi un livre sur la résilience, sur la manière dont on lutte contre le destin et contre les chagrins du monde. Et bien voilà, les enfants nous montrent la voie.
Ariane Bois, merci d'être venue jusque dans nos studios. Je rappelle donc que c'est votre neuvième ouvrage. Il s'appelle « Éteindre le soleil » aux éditions Plon. Vous êtes également critique littéraire et on a le plaisir de vous compter parmi nous.
C'est formidable et c'est une joie de retrouver tous les auditeurs de Radio Shalom.
Parce que vous animez également une chronique littéraire sur notre antenne. Ariane, merci.
Merci à vous, Bernard. À vous.